Chapitre 2. Les tambourineurs Flichemugois ont un nouveau directeur. Ayant triomphé de tous ses concurrents malgré leurs protections ou recommandations, Narcisse Gurdebec arriva un beau matin avec toute sa famille pour s'installer dans le beffroi de Flichemugue. En même temps que le père Gurdebec descendait clopin-clopant l'interminable escalier de 425 marches conduisant à son perchoir, Gurdebec, neveu, escaladait ses 425 marches en soufflant, car il était un peu gros. Gurdebec premier et Gurdebec II se rencontrèrent à mi-chemin et s'embrassèrent. Le neveu, depuis 8 jours, prenait des leçons de l'oncle. Et déjà, tant il possédait l'aptitude sous une apparence un peu lourde, il était aussi au courant des nombreuses et difficiles devoirs de sa charge que le père Gurdebec avait pu l'être avant la baisse regrettable de ses facultés. Le père Gurdebec, muni de ses paquets, descendait tout tristement pour s'en aller habiter la petite maison abandonnée par Gurdebec neveu, dans un faubourg de la ville à 240 pieds plus bas que la vieille plateforme, tandis que derrière, Gurdebec neveu, grimpant à sa tour, s'échelonnait dans l'escalier et sa famille assez nombreuse, les 6 demoiselles Gurdebec et leur petit frère Gédéon Gurdebec, âgé de 4 ans et demi, suivi par la plantureuse Madame Gurdebec, neveu, une bonne, grasse, blanche et blonde flamande, qui se hissait essoufflée sous une charge de paquets à l'arrière-garde. C'était aussi un bon gros flamand, Narcisse Gurdebec, un gaillard de haute taille et de forte corpulence, au ventre respectable, et triple menton déjà, bien qu'il ne touchât pas encore à la quarantaine. Mais il montrait une bonne figure, un peu béate, des petits yeux vifs, une large bouche toujours ouverte pour le rire, des joues roses et toujours rasées de frais. Une grosse barbiche blonde en bouquet, sous la lèvre inférieure, ajoutait une note claire à cet ensemble, frais et rose, réjouissant à voir comme certaines préparations de l'art du charcutier. En résumé, Gurdebec neveu avait une tête gaie, malgré son nez d'un aquilin assez prononcé, qui s'efforçait d'ailleurs, sans y parvenir, de donner un tout petit peu de gravité au reste de la physionomie. Gurdebec neveu venait, pour entrer dans ses nouvelles fonctions, de donner sa démission d'employé des contributions, profession pour laquelle il s'était jamais senti la moindre vocation. Porter des contraintes aux gens, leur réclamer durement les impôts en retard, c'était vraiment difficile avec une figure pareille, aussi les impôts rentraient-ils assez péniblement à Flichemugue. Il en avait assez du petit bureau sombre, des grands registres sentant le moisi, et il songeait avec volupté à la vaste étendue de plaine verdoyante que son regard allait embrasser du haut de sa tour, au bon air que ses poumons allaient délicieusement savourer. Lui qui toujours avait adoré la campagne, il allait la voir enfin, ou à peu près. N'allait-il pas planer sur 15 lieues de champs encadrées de légères collines bleuâtres et sillonnées de nombreuses petites rivières? Tout en montant l'escalier, l'idée de ces rivières lui ramenait en esprit la pêche à la ligne, sa grande passion, l'occupation de toutes ses heures libres. La pêche à la ligne allait bien lui manquer là-haut. Et Gurdebec poussa un profond soupir comme il débouchait à la tête de sa famille devant son nouveau domicile sur la plateforme du beffroi.
Oh, 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 oh,
firent tous les rejetons de la famille Gurdebeck en mettant le pied sur la plateforme. « C'est gentil ici, sais-tu, pour une fois, » dit Madame Gurdebeck, la main posée sur ses yeux éblouis par le grand soleil après l'obscurité de l'escalier. « Mais c'est tout à fait joli, sais-tu, » s'écria Gurdebeck neveu. « Je te l'avais dit souvent, mais tu n'avais jamais voulu monter et voir l'oncle Gurdebeck chez lui. »« Oh, c'était si haut, » répondit Madame Gurdebeck. « Maintenant que j'y suis, je voudrais bien m'asseoir. »« Entrons pour un peu chez nous, dans notre nouvelle demeure, gonneur d'homme. Nous avons le temps de contempler le reste, sais-tu, Madame Gurdebeck ?»« Oh, 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 oh !» répétaient les demoiselles Gurdebeck en faisant ébahir le tour de la plateforme. Le beffroi de l'hôtel de ville, un monument des XIIIe et XIVe siècles, orgueil des Flissemugois, est une large et massive tour carrée, très haute, bâtie au temps lointain de la grande prospérité de la riche, puissante et populeuse ville de Flissemüge, la cité du Moyen-Âge, aujourd'hui bien déchue, est devenue tout doucement une petite ville endormie dont la population vit fort à l'aise dans ses vieilles et imposantes maisons aux superbes pignons. Maison presque vide maintenant et donnant à l'abri à des familles de 5 ou 6 personnes. Là où jadis s'agitaient, serrées en des ruches bruyantes, d'opulentes familles, entourées de serviteurs, des commerçants aux nombreux commis, ou des légions de gens de métier pullulant au milieu du bruit dans un mouvement souvent tumultueux. Le dernier étage de la tour, éclairé sur les 4 faces, par de hautes ogives, se couronne d'une vaste plateforme qui montre sur un de ses côtés, au-dessus de la balustrade crénelée, les 4 vieux musiciens de bois chargés depuis des siècles de mesurer la course du temps à leurs concitoyens. Ces bons hommes, hauts de 8 pieds, sont habillés à la mode du XVIe siècle de pourpoint tailladé et de chausses jadis peinturlurés de brillantes couleurs. Chacun les aime à Flissemüge. Ce sont comme des ancêtres auxquels on se plaît à dire bonjour avec un sourire quand on les entend décrocher les coups de marteau là-haut sous l'arcade. Tous les Flissemugois connaissent bien d'ailleurs les petits noms de ces ancêtres. Ce sont les hauts et puissants seigneurs messire Jacquinet et Jacquinou, Jacquemin, Jacquemart. Dieu leur prête encore longue vie, muscles solides et bonne santé. En retrait, au milieu de la plateforme, s'élève une tourelle octogonale portant encore 5 ou 6 étages de balcons ajourés en rose trilobé et de fines lucarnes à fleurons. Tourelle qui s'amincit et s'effile de plus en plus jusqu'au grand lion héraldique dressé à la pointe avec la lampe de la vieille et gigantesque girouette entre les pattes. L'étage inférieur de cette tourelle, c'est la demeure du guetteur municipal, le nouveau domicile des Gurdebeck. Entrons avec eux dans la vaste salle octogonale à pilier central en bois. Cette salle s'ouvre sur les 8 côtés par de larges fenêtres en ogive, laissant pénétrer partout l'air et la lumière et permettant au guetteur de voir librement sur toutes les faces de son perchoir. Dans un angle, un escalier monte à quelques chambres superposées dans les divers étages au-dessus. « Eh oui, que c'est joli tout de même !» répéta Madame Gurdebeck, émerveillée. « C'est gai, et quand il y aura un peu moins de poussière, ce sera parfait !»«
Oh, le père Gurdebeck n'y voyait plus très bien !» dit Gurdebeck, ce neveu. « Il se négligeait de ce côté !»«
Narcisse, ce sera notre salle à manger !»« Allez, voyons les chambres !» ajouta Madame Gurdebeck, neveu.
« Oh, je les ai visités, c'est parfait, sauf qu'il y a encore plus de poussière
puisque l'oncle ne pouvait habiter 7 ou 8 chambres à la fois, et c'est de la poussière de 400 ou 500 ans.
J'en fais mon affaire de la poussière de 400 ou 500 ans, s'écria résolument la ménagère. Nous allons voir qui est-ce qui recrutera d'elle ou de moi. Ce qui me peine, Gurdebec, vois-tu, c'est que l'escalier est un peu étroit. Je suis pourtant encore assez mince, j'ose le dire, et je puis à peine avancer.
Bon, j'en souffre autant que toi, dit Gurdebec, neveu, arrêté par son ventre à un tournant de l'escalier. Après quelques efforts et de l'adresse, M. et Mme Gurdebec, neveu, parvinrent à s'insinuer jusqu'aux étages supérieurs de leur domaine et parcoururent les chambres où les avait précédées leur progéniture.
« Eh bien, voilà notre chambre !» dit Madame Gurdebec, trouvant justement le premier étage divisé en 3 pièces. « Et les 2 chambres à côté seront pour les enfants.
Bon, »« il y a encore d'autres chambres au-dessus, » fit Gurdebec.
« Oh, ça c'est pour plus tard, quand les petits grandiront. »«
Bon, du reste, on fera des chambres d'amis. »
Et là, je pense qu'on ne viendra pas trop souvent nous voir si haut, soupira Madame Gurdebec.
Bon, mais tu te plains toujours, mais c'est tout ce que tu regrettes, je vais te le dire, Madame Gurdebec. Ce sont les petites bavettes que tu taillais avec les voisines du faubourg. Madame Trompetten, Madame Mitte et Madame Van Blissinger.
Petites bavettes, par exemple.
Tu as raison, mais... C'est long, long, long causette que je devrais dire.
Allez, installons-nous plutôt que de bavarder, dit Madame Gurdebec. Vis donc toujours les paniers que tu as fait monter ce matin et rangez-les en attendant qu'on nous apporte la literie et le reste.
Bon, cette ascension m'a creusé, dit Gurdebec, et ce grand air qu'on respire dans notre chez-nous. Nous avons de la vaisselle et le panier aux provisions. Ben, dînons d'abord, nous emménagerons ensuite.
Madame Gurdebec, pleine de bonne volonté, déploya toute son activité pour casser des œufs, découper des tranches de lard et faire sauter le tout dans une poêle sur le fourneau de la tourelle, pendant que Gurdebec, neveu, mettait la table. Et bientôt, M. et Mme Gurdebec, assis sur les 2 chaises de l'oncle, les enfants assis sur le carreau firent leur premier repas dans leur nouveau domicile. L'omelette fut bientôt expédiée. Madame Gurdebec demeura sur sa chaise et M. Gurdebec s'en fut s'accouder à un créneau de la plateforme pour fumer sa pipe en regardant les flèches des monuments de la ville s'effiler dans le ciel et toutes les maisons d'en bas vus par leurs toits, vrillant en l'air des spirales de fumée, et les rues où passaient de minuscules personnages, et les places solitaires où, çà et là, quelques vieux rentiers somnolaient sur un banc en lisant la gazette. Vue de cette hauteur, la ville de Flissembugge s'étalait pittoresquement, montrant par en haut son dédale de rues et ruelles tournant, et virant à angles aigus tous ces antiques quartiers au milieu desquels serpentait une ligne blanche qui était la Flisse, la petite rivière enjambée par 4 ou 5 ponts moussus, presque aussi vieux qu'elle. Immédiatement, au-dessous du beffroi, à droite, à gauche et derrière, comme une chaîne de montagnes aux arêtes aiguës, se hérissaient les combles pointus, les toits irréguliers aux vieilles tuiles couvertes de mousse du vieil hôtel de ville, édifices compliqués réunissant salles des métiers, bourses des commerçants et salles des vieilles corporations. Ces toits, se chevauchant les uns les autres, laissant entre eux des défilés, des couloirs et des galeries, c'était désormais le domaine de Gurdebec. Madame Gurdebec et tous les Gurdebec
était venu passer la tête au créneau auprès du nouveau guetteur de Flissemugueux. Toute la famille, les yeux écarquillés, regardait quelle figure drôle et originale présentait leur ville natale vue de cette façon, spectacle tout nouveau. Seuls les corbeaux de la tour, les oiseaux du ciel et le guetteur du beffroi pouvaient la connaître ainsi. Au premier plan, sous la plateforme, il y avait comme des sentiers entre les grands toits de la maison de ville, sentiers dallés par lesquels on regagnait les escaliers, grimpant derrière les grands triangles crénelés des pignons, pour rejoindre d'autres toits, d'autres pignons, d'autres plateformes, et atteindre la grande arcade aérienne qui menait à l'église Saint-Éloi, c'est-à-dire à d'autres grands combles, à d'autres terrasses, sur des chapelles à d'autres galeries ajourées, en passant à travers les grands arcs boutants de l'abside, pour aboutir au grand clocher, le frère jumeau du beffroi municipal, tout en haut duquel le vieux carillon répondait deux fois par heure aux quatre tambourineurs flissenbugois.